de retour à l'émission de littérature avec nous en direct par téléphone. J'accueille Jean-Michel Besnier. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour à vous. Alors, on va parler donc de Demain les post-humains. Le futur a-t-il encore besoin de nous? Et on va mettre les pieds dans le plat tout de suite par une première question. Les utopies post-humaines nous confrontent-elles à des questions inédites? Par exemple, notamment celle-ci, quel type d'homme allons-nous construire?
Ben écoutez, je pense qu'effectivement, la caractéristique des utopies post-humaines, c'est que elles anticipent sur le devenir de l'homme à partir des possibilités développées par les technosciences, ce qu'on appelle aujourd'hui les technosciences, hein, c'est-à-dire la convergence d'un certain nombre de technologies issues des biotechnologies, des sciences de l'information et de la communication, des nanotechnologies, des sciences cognitives. Donc la caractéristique des utopies post-humaines, c'est qu'elles font le pari qu'aujourd'hui, nous pouvons réaliser ce que nous avons pu effectivement fantasmer depuis de nombreuses années, depuis même de nombreux siècles, à savoir l'idée que nous serions en mesure de fabriquer l'homme, hein, de lui donner un devenir programmé, concerté. Et c'est ça peut-être le phénomène nouveau. Parce que bon, depuis au moins le XVIIe siècle, on rêvait de réaliser un homme artificiel. Vaucanson est le nom qui s'attache à ce projet de réaliser un homme artificiel. Et la cybernétique du début du XXe siècle, enfin en tout cas des années 1940, rêvait elle aussi de réaliser cet homme artificiel. Eh bien, disons qu'aujourd'hui, bon nombre de futurologues, de prospectivistes se disent que nous possédons les moyens de réaliser cet homme.
Et alors là, du coup, ça nous pose à nous, humains, des questions inédites.
Ça nous pose des questions inédites, bien sûr, parce que la perspective d'avoir à vivre dans un environnement qui serait composé en partie d'hommes ou de créatures issues de nos technologies nous pose évidemment un problème. Songez seulement que nous avons vraisemblablement la possibilité à court terme de réaliser des clones, même si pour l'instant on résiste à tout prix, puisqu'on a même imaginé d'incriminer de crimes contre l'espèce humaine le responsable d'un clonage humain. Bon, on doit quand même se dire que à court terme, il y aura vraisemblablement des clones humains. Alors comment fera-t-on pour intégrer dans notre univers, dans notre humanité, des êtres qui ne seront pas issus de la rencontre de spermatozoïdes et de gamètes, hein, mais qui seront le pur produit de la duplication d'un génome et d'un seul génome. Bon, problème donc inédit, que aucune référence morale nous permet d'éclairer. Songez aussi que à court terme, on réalisera des robots androïdes, comme les Japonais le font actuellement, des robots androïdes qui nous poseront la question de savoir comment les intégrer, là aussi, à notre environnement. On se pose déjà, vous le savez, la question de savoir s'il ne faudrait pas accorder des droits à ces robots, s'il ne faudrait pas essayer de leur assigner des devoirs. Donc on est en plein animisme, comme disent les philosophes, à savoir qu'on est obligé, là aussi, de projeter sur des robots, sur des artefacts, un certain nombre de préoccupations qui sont pour l'instant des préoccupations concernant les interactions humaines. Donc vous avez raison, problèmes inédits qui conduisent évidemment le philosophe à se poser la question de savoir ce que pourrait bien être une éthique élargie, une éthique concernant donc une humanité élargie, hein, clones, hybrides, créatures chimériques, etc., etc. Là, on est évidemment dans une prospective qui nous donne à penser que de l'inédit, du radicalement nouveau pourrait bien surgir.
Alors, ça pourrait être quoi, cette humanité élargie?
Ce concept d'humanité élargi, il désigne ce que je suggérais à l'instant, à savoir que jusqu'à présent, quand on définissait l'humanité, lorsque les humanistes pensaient l'humanité, ils pensaient d'abord, et presque exclusivement d'ailleurs, les relations entre les individus humains que nous sommes, c'est-à-dire dotés d'une subjectivité, capables d'une vie intérieure, accessibles à des valeurs universelles. Jusqu'à présent, on circonscrivait l'humanité au cercle de ces êtres définis par les critères, disons, de la philosophie cartésienne, pour aller un peu vite. Eh bien, une humanité élargie, c'est une humanité qui devra prendre en compte, du fait de nos réalisations technoscientifiques, du fait aussi de nos découvertes en matière de sciences cognitives, eh bien, une humanité qui devra prendre compte des êtres qui n'ont pas les caractéristiques cartésiennes que je viens de suggérer. Déjà, on le sait à propos des animaux, l'éthologie a fait des progrès considérables ces dernières années concernant la description et l'étude des animaux, et aujourd'hui on est bien moins persuadé que Descartes l'était, que les animaux n'ont rien à voir avec nous. Pour Descartes, c'était simple, l'animal c'était une machine un petit peu sophistiquée, mais comme la machine en question était dépourvue de langage et de pensée, elle ne méritait pas du tout notre attention, elle n'appartenait pas à l'humanité. Aujourd'hui, la frontière entre l'homme et l'animal est un peu plus ténue, et bon nombre d'éthologues sont prêts à parier que les animaux sont capables de langage, ont un langage intérieur, et que, en tout cas, ils ont une aptitude à la souffrance, ce qui nous les rend semblables. Donc, dans cette humanité élargie, il faudra compter avec les animaux. Bon, les robots androïdes que j'évoquais à l'instant sont un autre exemple. Il est évident que lorsque nous aurons réalisé des robots qui seront capables de nous rendre des services, garder nos enfants, s'occuper de nos vieux parents, par exemple, lorsque nous aurons réalisé ces robots, donc suffisamment intelligents pour prendre des initiatives dans le service qu'ils nous rendent, lorsque ces robots seront capables de repérer des émotions sur notre visage, lorsqu'ils seront capables eux-mêmes de simuler ces émotions, lorsqu'ils seront capables de disposer d'un langage étendu et donc qui leur permettra d'interagir vocalement avec nous, il est évident qu'on ne pourra pas considérer ces robots comme de simples machines, comme de simples bécanes. Il y aura une spécificité du robot qui appellera presque immanquablement de notre part des réactions qui seront des réactions d'ordre humain. Donc, dans l'humanité élargie, il faudra bien compter avec ces robots. Bon, je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore évoqué les créatures qu'on appelle des cyborgs, mais le cyborg est évidemment, à la porte de notre humanité. Qu'est-ce que c'est qu'un cyborg ? Un cyborg, c'est un être qui couple de l'organique et du cybernétique. C'est la signification de cyborg, un couplage d'organique et de cybernétique. Bon, il est évident qu'il y a déjà maintenant des dizaines d'années que nous réalisons des cyborgs. Les premiers cyborgs, on les a réalisés à l'occasion de la conquête de l'espace, lorsqu'il s'est agi de savoir comment on pourrait bien faire en sorte que des êtres humains dans des fusées soient capables de réaliser des activités cognitives, des activités sensorimotrices, dans un environnement qui est un environnement non artificiel, non naturel. Bon, le jour où on s'est dit que pour obtenir cela, il fallait coupler l'être humain avec des dispositifs fonctionnant de manière rétroactive comme le font les machines cybernétiques, eh bien, on a réalisé les premiers cyborgs. Et par la suite, on a cessé de complexifier les dispositifs externes couplés avec les êtres humains, et on les a progressivement intériorisés. Et aujourd'hui, on peut dire que le porteur d'un pacemaker est un cyborg en toute rigueur, puisqu'il a en lui-même un dispositif qui interagit avec l'environnement et qui autorégule le comportement de l'être humain. Donc on a bel et bien affaire là à un être qu'on peut appeler un cyborg. Bon, et les développements technoscientifiques aujourd'hui qui misent beaucoup sur la production de prothèses électroniques extrêmement sophistiquées, bon, nous mettent en mesure de réaliser de plus en plus de cyborgs. Lorsque on songe à ce que l'on réalise dans le domaine des nanotechnologies aujourd'hui, on est proprement époustouflé. Enfin, ces êtres, les tétraplégiques, qui sont incapables donc de se mouvoir et qui peuvent d'ores et déjà, par la pensée, agir sur un environnement immédiat, permettre grâce à des ondes électromagnétiques, ouvrir un placard, ouvrir une télévision, etc. Bon, lorsqu'on songe donc qu'on peut déjà réaliser une action à distance sur des dispositifs techniques, on se dit là aussi qu'on a réalisé des êtres potentiellement qui vont devoir compter avec nous dans cette humanité qui sera décidément une humanité élargie.
Alors là, vous nous avez donné des exemples concrets, ils sont effectivement édifiants, et puis c'est notre présent. Dès qu'on s'intéresse à la chose, on s'aperçoit vraiment que c'est au présent que vous parlez, et c'est ça qui est bluffant peut-être pour un auditeur qui n'est pas averti sur la question. Les technosciences, elles fabriquent les utopies d'hier, comme vous dites, et elles inventent constamment. Alors du coup, je pose cette question à vous, le philosophe, est-ce que la philosophie vient penser tout cela à rebours ?
Alors, est-ce que c'est penser à rebours ? D'une certaine façon, oui. Bon, vous savez, l'une des questions centrales de la philosophie traditionnelle, c'est quand même la question « qu'est-ce que l'homme ?» Lorsque le philosophe Kant énumérait les questions qui se posent à la philosophie, il les subordonnait toutes à cette question « qu'est-ce que l'homme ?» On peut s'interroger « qu'est-ce que c'est connaître ? Que doit-on faire ? Que peut-on espérer ?» Mais en réalité, toutes ces questions, elles revenaient à se poser « qu'est-ce que l'homme ?» Donc, de ce point de vue-là, le philosophe, face aux possibilités développées par les technosciences, et puis aussi par rapport aux ouvertures, aux perspectives offertes par les biotechnologies, il est aujourd'hui amené à se poser la question « qu'est-ce que l'homme ?» à nouveau frais. Par exemple, sachant la proximité génomique qu'il y a entre les grands primates et les hommes, il peut se poser la question « qu'est-ce que c'est que l'homme ? » Quelle est la spécificité de l'homme par rapport aux animaux ? Dans le cas du cyborg que j'évoquais à l'instant, le philosophe peut se poser la question « jusqu'à quel point reste-t-on un homme lorsqu'on est couplé à des dispositifs cybernétiques ? À partir de quel moment cesse-t-on d'être un homme pour devenir une machine ?» C'est une question ontologique. Donc là, on a bel et bien des questions qui se posent, qui bousculent en quelque sorte les canons traditionnels de la philosophie et qui nous conduisent à poser à nouveau frais les vieilles questions de la philosophie. Le philosophe, il peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la conscience lorsque il prend connaissance des découvertes des sciences cognitives et lorsque il s'aperçoit, enfin lorsqu'il découvre que l'intelligence artificielle parvient à simuler des comportements intelligents de sorte qu'on puisse s'y tromper. Mais plus fondamentalement, et je réponds à votre question là plus précisément, c'est moins poser les questions à rebours que de se mettre dans la position de répondre à une question qui est nouvelle, qui serait celle-ci: quel homme sommes-nous en train de fabriquer ? Quel homme sommes-nous en train de fabriquer ? Jusqu'à présent, les philosophes n'avaient pas lieu de poser cette question. Aujourd'hui, ils doivent se la poser parce qu'ils découvrent que dans l'environnement des technosciences, eh bien, les gens, les ingénieurs, les technoprophètes, comme on les appelle quelquefois, eh bien, se sont mis dans l'idée de fabriquer l'homme, de le fabriquer par clonage, par ectogénèse, grâce donc à l'utérus artificiel que l'on projette pour dans quelques dizaines d'années, grâce à des prothèses, grâce à des manipulations de l'humeur autorisées par les neurosciences. Donc on est en train de fabriquer l'homme, et la question philosophique, c'est quel homme voulons-nous fabriquer, sachant les possibilités technoscientifiques dont nous disposons. Et là, c'est une question fondamentalement philosophique, puisque les philosophes depuis toujours se posent la question de savoir comment bien vivre, quel type de sagesse devons-nous développer. Eh bien, aujourd'hui, que nous pouvons fabriquer l'homme, que nous pouvons éviter que l'homme soit contraint à la naissance non choisie, qu'il soit amené à ne plus souffrir, à ne plus vieillir et même peut-être à ne plus mourir, bah, la question de la sagesse s'impose de manière urgente, hein, et la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de cet homme que l'on fabriquera, c'est une question qui devient tout à fait capitale. Donc non seulement penser à rebours l'homme, mais penser de manière prospective la situation de l'homme que l'on est en train de se préparer.
Alors, vous dites, cette question qui paraît vraiment, oui, là, du coup, inédite, quel homme sommes-nous en train de fabriquer ? Est-ce que, par extension, on ne pourrait pas dire quel état de la vie sommes-nous en train de fabriquer ? On peut prendre l'exemple du robot, et vous en parlez très bien dans votre livre. Vous dites que le robot, c'est une fois qu'on aura un robot proche de l'homme, ça sera comme un miroir de l'homme qui permettrait à l'homme de se reconnaître comme tel. Mais du coup, ces robots-là, est-ce qu'ils seront dans l'état vie ? Qu'est-ce qui les distinguera de l'état vie ?
Bah, écoutez, là, vous posez une question qui concerne les développements les plus contemporains de la biologie, de cette biologie qu'on appelle la biologie synthétique. Hein, la biologie synthétique, c'est cette discipline en chantier qui envisage de réaliser de la vie avec autre chose que de l'ADN. Donc, réaliser de la vie sur des supports qui seront des supports autres que biologiques. Bon, là, donc, c'est une prospective qui n'est plus de l'ordre de la science-fiction, hein, qui fait l'objet de démarches, de programmes de recherche tout à fait considérables. Donc, la question de savoir ce que sera ou ce qu'est déjà cette vie que l'on envisage de produire de manière artificielle, bon, cette question, elle est évidemment fondamentale. Alors, vous évoquez dans la réflexion que je développe dans mon livre en disant, au fond, ces robots androïdes qui vont beaucoup nous surprendre, de plus en plus nous surprendre, et qui vont nous effrayer parfois, parce que on aura de plus en plus de mal à les différencier des hommes. Vous savez qu'actuellement au Japon, dans le monde de la robotique, on est déjà confronté à la question de savoir jusqu'où faut-il pousser la simulation. Hein, jusqu'à quel point les robots que l'on fabrique n'opéreront-ils pas des effets contre-performants, hein, dans la mesure où les gens pourraient tout à coup se trouver effrayés de la trop grande proximité que ces robots entretiennent avec les humains. Donc comment placer le curseur de telle sorte que on ne s'y trompe pas, que les robots soient des robots ressemblant aux hommes parce que c'est mieux ils ont à vivre avec notre environnement, mais que surtout on ne puisse pas tout à coup se poser des questions sur soi-même parce que le robot nous renverrait à nous-mêmes une image déconcertante. Alors, le point, moi, que j'essaie de développer dans la conclusion de mon livre, c'est de dire au fond ceci. Le robot androïde, il nous renvoie à la question même fondamentale de l'éthique. L'éthique, c'est la question de l'altérité. Hein, que faire de l'autre que moi qui me fait face, dans lequel je suis porté à me reconnaître ou à le reconnaître comme un autre que moi, hein, que faire avec cet autre, quel type de relation établir avec lui, comment stabiliser justement ces relations avec lui. Eh bien, je soutiens que le robot qui a cette inquiétante étrangeté. Hein. Il me ressemble, mais il n'est pas moi. Mais il me ressemble suffisamment pour éveiller déjà une manière d'empathie, hein, puisque je suis porté à lui prêter de plus en plus des sentiments, puisque je ne le considère pas comme une simple bécane, une simple chaise ou un instrument ménager. Hein. Ce robot, il éveille en moi les qualités les plus élémentaires de l'éthique. Je me suis aventuré à un rapprochement qui quelquefois scandalise les gens devant lesquels je l'exprime. Mais je me dis que lorsque les conquistadors portugais, espagnols ont débarqué sur le continent américain et qu'ils ont découvert la première fois des Indiens, ils se sont d'ailleurs trouvés explicitement dans la position de déconcertement, de perplexité. Hein. Ces Indiens leur rappelaient quand même bien quelque chose, à savoir les êtres humains qu'ils sont eux-mêmes et qu'ils fréquentent au Portugal ou en Espagne, hein, mais en même temps, ils n'ont pas été tentés de prêter à ces êtres humains la qualité pleine et entière d'humanité qu'ils portent à leurs semblables. Donc voilà la question. Et vous savez que les débats sont allés bon train très très vite autour de la question: est-ce que les Indiens ont une âme? Est-ce que les Indiens donc méritent d'appartenir à l'humanité qui est la nôtre, hein, ou ne serait-il pas, au fond, des êtres étranges, plus tout à fait des animaux, mais pas encore des hommes? Eh bien, je pense que les robots androïdes posent à peu près la même question, même si ça paraît scandaleux de le dire comme cela, et par conséquent nous invitent à repenser fondamentalement la nature de l'éthique, c'est-à-dire l'aptitude à identifier l'autre que moi et à l'accueillir dans mon cercle, hein, dans le cercle de mes relations.
C'est cela que vous appelez une éthique régénérée.
Du coup, c'est effectivement redécouvrir les conditions mêmes de l'éthique, hein, à une époque où l'exigence éthique est bel et bien vive et forte, mais où on a souvent tendance à confondre l'éthique avec l'administration des bons sentiments, hein, alors que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'éthique, depuis toujours, et l'éthique qu'il faudrait régénérer en ce sens-là, c'est l'aptitude à établir avec l'autre que soi des relations d'équilibre, des relations d'harmonie, des relations qui seraient régies par la détermination d'un idéal commun. Hein, et donc, de ce point de vue-là, aussi bizarre que ça puisse paraître parfois, l'éthique est tout à fait envisageable avec des êtres qui sont différents, hein, et qui sont même spécifiquement différents. Alors, dans mon livre, j'évoque une belle thèse qui était développée par un philosophe italien des années 1950, hein, et qui disait que à partir du moment où je pouvais imaginer qu'un robot constitue un point de vue sur le monde, constitue comme une espèce de fenêtre sur le monde, eh bien, je devais lui faire crédit et considérer qu'un dialogue est possible avec lui. L'éthique, c'est la question du dialogue, et un dialogue, autant je ne peux pas établir de dialogue avec un aspirateur, hein, autant il y a des êtres dont je peux me dire qu'ils constituent comme, oui, une espèce de point de vue sur le monde, une perspective sur le monde. Un animal est tout à fait dans cette situation. L'animal domestique, lorsque je regarde mon chien ou mon chat, je me dis que ces animaux ouvrent une fenêtre sur le monde. Et donc, je ne peux pas les considérer comme mon aspirateur. Eh bien, le robot, ce sera la même chose. Hein. Et donc, de ce point de vue-là, je retrouve le fondement même de la relation éthique, c'est-à-dire celle qui m'invite à expérimenter l'altérité.
Alors, ce qu'il y a de redoutablement captivant dans votre livre, c'est que vous êtes incroyablement informé sur le sujet et que vous n'êtes absolument pas effrayé par la chose. Et c'est ça qui est absolument captivant. Et alors, on va juste décaler un petit peu ce concept d'éthique régénérée. J'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous revendiquez le droit à l'immaîtrise c'est-à-dire cette possibilité de réouvrir un avenir imprévu et salutaire, comme vous dites.
Écoutez, s'agit-il d'un droit, s'agit-il d'un fait? Bon, voilà. Le droit à l'immaîtrise, je ne vois pas quelle instance pourrait l'accorder à qui que ce soit. Par principe, il vaut mieux être responsable que de ne pas être responsable. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux être dans une posture de maîtrise que dans une posture d'immaîtrise. Cela étant, les technosciences dont on parle beaucoup aujourd'hui, les nanotechnologies en particulier, nous mettent devant le fait même de l'immaîtrise. Et ou bien, effectivement, nous revendiquons un moratoire et nous interdisons aux nanotechnologues de développer leurs recherches, hein, et à ce moment-là, nous essayons de nous garantir encore la maîtrise, ou bien nous essayons de réguler les émergences que font surgir ces sciences et ces techniques. Alors je m'explique, parce que peut-être que les auditeurs trouveront que je suis un peu abstrait. Mais on dit que les nanotechnologues sont des scientifiques qui ont aujourd'hui les moyens d'agir sur la matière atome par atome. On nous dispose d'un microscope à effet tunnel, on a des pinces optiques, etc., qui permettent et qui permettront de plus en plus de reconfigurer les atomes, les molécules, et donc de laisser à la nature, si on peut encore parler de nature, ou en tout cas au système sur lequel on travaille, le soin de produire des effets, et des effets qui seront effectivement des effets inattendus. Donc, on sait que les nanotechnologues, bon, s'ils effraient, c'est justement parce qu'ils ont cette possibilité-là. Ça fait partie de leur travail. On travaille au niveau du nanomètre, d'un milliardième de mètre, et là, il y a des effets qu'on appelle des effets quantiques, hein, qui relèvent de cette mécanique quantique où l'indétermination s'introduit. Donc, on est de fait dans cette situation de l'immaîtrise. Alors, la question que vous posez, le droit à l'immaîtrise, faut-il le soutenir ou pas, je dirais là, c'est la question de savoir si on accepte de donner libre cours à des entreprises scientifiques qui invitent à être des apprentis sorciers, puisqu'on va travailler sur les conditions initiales de systèmes qui vont développer des phénomènes émergents dont on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir et ce qu'ils peuvent produire. Alors, la question que vous posez, elle trouve néanmoins sa justification pleine et entière, puisque on a affaire, notamment autour des laboratoires de nanotechnologie, et surtout aux États-Unis, on a affaire à des gens qui, sous le nom de transhumanistes, affirment que aujourd'hui, nous aurions la chance de faire advenir quelque chose de radicalement inédit, de radicalement singulier, et que ce quelque chose nous débarrasserait de ce qui s'est révélé un échec, à savoir l'humanité. Les transhumanistes, certains transhumanistes extrémistes, n'hésitent pas à dire que l'humanité qui a voulu s'assurer la maîtrise a abouti à des impasses, a abouti à des catastrophes, et par conséquent, eh bien, si on peut donner une postérité à l'humanité, et on donnera cette postérité à l'humanité sur la base, justement, d'une immaîtrise, ce sera toujours mieux que de vouloir prolonger l'humanité qui s'est révélée catastrophique. Dans mon livre, j'évoque le nom de Jean-Michel Truong, l'auteur d'un livre, notamment. Parmi ces livres, il y en a un qui s'appelle « Totalement inhumaine », dans lequel Jean-Michel Truong n'hésite pas à dire que après Auschwitz, après Hiroshima, il serait complètement absurde de vouloir travailler à un avenir qui aurait un visage humain. Et il dit, et il développe, l'idée selon laquelle, aujourd'hui, nos technologies vont nous permettre de faire advenir un successeur, il l'appelle successeur avec un grand S, hein, qui reléguera l'humanité dans l'archaïque et on permettra, au fond, à quelque chose comme une sélection, une évolution sélective de se développer quasiment mécaniquement, hein, et fera advenir le quelque chose qui nous débarrassera de ce qui a été et qui se révèle invivable, insupportable.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel Besnier d'avoir bien voulu répondre à mes questions en direct par téléphone. C'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup à vous.